Quelques années que j'avais passé un week-end avec certains d'entre vous, je reconnais quelques têtes, donc c'est bien de revenir, de refaire connaissance avec la communauté qui a déjà un peu changé depuis quelques années, donc c'est réjouissant, et puis quel privilège de pouvoir venir vous servir durant ce temps particulier que vous vivez dans le cadre du renouvellement du conseil pastoral. C'est toujours un grand privilège d'avoir des responsables qui sont prêts à se lever et à continuer de servir, de conduire la communauté qui leur a été confiée. Alors voilà, donc ce matin, je vous invite à prendre un passage qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au début de l'Épître aux Philippiens, à partir du verset 12. Et nous allons lire là quelques versets qui nous concernent tous, mais qui pourraient bien sûr, évidemment, concerner nos amis qui vont assumer ces responsabilités au sein de ce conseil pastoral. Philippiens, chapitre 1, versets 12 à 26. Philippiens, chapitre 1, versets 12 à 26. Je souhaite que vous le sachiez, mes frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. En effet, dans tous les prétoires, comme partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis prisonnier. Et ma condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères dans le Seigneur. Ils ont d'autant plus d'audace pour dire la parole sans crainte. Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût de dispute, mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle. Leurs intentions ne sont pas pures. Ils s'imaginent ajouter de la détresse à ma condition de prisonnier. Mais qu'importe, de toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera selon ce que j'attends à mon salut grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ce que j'attends avec impatience, ce que j'espère, je n'aurai honte de rien. Avec une entière assurance, maintenant comme toujours, le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Toutefois, s'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair, je ne sais que préférer. Je suis enfermé dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je demeurerai auprès de vous tous encore et encore en vue de vos progrès et de votre joie dans la foi, pour que vous soyez toujours plus fiers de Jésus-Christ en moi, grâce à mon retour auprès de vous. Ici s'arrête la lecture de ce matin. Nous sommes libres. Libres dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, par sa mort, par sa résurrection. Il est vivant, il agit puissamment, donne vie par l'action de l'Esprit-Saint. Et le Christ est avec nous chaque jour et jusqu'à la fin du monde. Et je ne sais pas si nous imaginons que nous sommes libres. Bien sûr, légalement, en lisant l'Écriture, nous pouvons dire que nous sommes libres. Mais est-ce que nous expérimentons pleinement cette liberté que Dieu nous a offerte en Jésus-Christ? Voilà la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Que nous soyons membres lambda ou responsables d'église, eh bien, il y a une chose qu'il faut que nous réalisions pleinement, c'est que le Christ nous donne toutes les ressources dont nous avons besoin pour que nous puissions pleinement vivre cette liberté qu'il nous a octroyée par sa mort et par sa résurrection. Et dans le texte de ce matin, eh bien, nous constatons justement à quel point Paul est libre. Il suffit de lire déjà le début de la lettre pour constater que d'un côté, c'est vrai qu'il aurait pu se plaindre, n'est-ce pas? Lorsqu'il écrit cette lettre, eh bien, il se trouve en prison, probablement proche de la ville de Rome. Et c'est vrai qu'il aurait pu se plaindre de ses conditions, en fait d'emprisonnement, Ben, il fait tout le contraire, finalement. Il suffit de lire dès le début de ce chapitre pour constater que Paul, eh bien, il se réjouit. Il se réjouit dans le Seigneur. Il se réjouit de cette collaboration qui a été vécue déjà avec les Philippiens. Il les encourage. Il leur dit, eh bien, cette œuvre que le Seigneur a commencée en vous, il la poursuivra jusqu'à son accomplissement pour le jour de Jésus-Christ. Et puis, en plus, après, il prie. Il prie pour que l'amour abonde. Il prie pour qu'il y ait une clarté dans leur vie. Il prie pour que cet amour déborde encore de leur vie afin qu'ils puissent continuer à être pleinement témoins de l'Évangile là où il les a placés. Paul est libre alors qu'il est enchaîné. Ça, c'est la première chose que l'on remarque ici. Paul est libre alors qu'il est dans une prison et qu'il aurait pu se plaindre de tout ce qu'il vivait. Et c'est ça qui est fort, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il dit dans le début de notre passage du jour. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Dans tous les prétoires, comme partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis prisonnier. Et ma condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères dans le Seigneur, qui ont d'autant plus d'audace de dire encore la parole. Imaginez l'état d'esprit de l'apôtre Paul. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Imaginez cet homme qui se considère comme libre, eh bien, malgré qu'il soit emprisonné, il saisit chaque occasion possible, inimaginable, pour qu'il puisse partager l'Évangile auprès de ses gardes qui sont là près de sa prison et auprès d'autres personnes, certainement. Il est amoureux de Jésus-Christ. Et bien qu'il aurait pu tomber dans le découragement, comme ça aurait été le cas peut-être de certains d'entre nous, eh bien, il saisit chaque occasion. Prenez leur vie à Jésus-Christ. Mais des femmes puissent entendre parler de la grâce de Dieu et qu'ils puissent donner leur vie à Jésus-Christ. Imaginez une situation qui a pu avoir lieu à ce moment-là. Les gardes qui disent « Hey Paul, pourquoi tu es en prison ?» Et puis Paul dit « Je suis en prison à cause de l'Évangile. »« Oui, mais alors, qu'est-ce que l'Évangile ?» Et puis paf, il profite de l'occasion pour partager la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Là, en fait, dans sa situation bien précise. Et puis, imaginez aussi mais les autres chrétiens qui sont peut-être là dans la ville de Rome et qui sont interpellés par un certain nombre de citoyens qui ne sont pas chrétiens et qui disent « Tiens, mais pourquoi est-ce que votre pasteur est en prison ?» Il est en prison à cause de l'Évangile. Et là aussi, ils ont saisi l'occasion pour que l'Évangile puisse être clairement proclamé auprès de ces personnes-là aussi. Et ce matin, j'ai envie de dire ceci. Rien ni personne ne peut empêcher l'avancement du règne de Dieu dans ce monde. Rien ni personne. Même nos faiblesses, même notre fragilité, même nos erreurs que nous pourrions encore commettre ici dans notre vie d'église. Rien ni personne ne peut empêcher l'avancement du règne de Dieu dans ce monde. Je pense à un de mes amis. Alors, qui a vécu peut-être une situation particulière, mais je pense à un de mes amis qui est d'Iran. Voilà, donc un pasteur pentecôtiste. Enfin, c'est son père qui est un pasteur pentecôtiste à Téhéran. Il est menacé de mort par le gouvernement, c'est dans les années 1979. Et donc, les gens de son église lui disent « Il faut que tu partes, il faut que la vie sauve. Tu sais que les chrétiens sont tués dans notre pays maintenant, donc il faut que tu partes. » Et le pasteur dit, non, moi je reste jusqu'au bout. Et puis finalement, la pression monte, en fait, de plus en plus, et il est conduit à cette conviction qu'il doit partir, donc il part au Liban, c'est la société biblique qui donc lui offre un travail à l'époque, mais là, très vite, il est retrouvé par le Hezbollah. Donc, on lui offre un poste alors à Londres, en Angleterre. Et là, il commence une église pour les Iraniens, au centre de Londres. Une église qui grandit très vite avec tous ces étudiants qui viennent pour 3 mois, 6 mois d'Iran. Et voilà, donc ils entendent l'évangile, l'église grandit très vite, donc très vite ils passent de 0 à 300 personnes, quoi. Ah, et puis après, ils repartent chez eux et ils essaient d'être témoins là-bas. Mais en plus, eh bien, ce Sam Yagnazar, il a cette vision de mettre en place un institut biblique pour ces Iraniens qui viennent, pour renvoyer équipés, le temps de leur visa, en fait, de touristes, et puis qu'ils se forment, et puis qu'ils soient renvoyés équipés pour être témoins là-bas. Et beaucoup de personnes sont passées par cette école. Et l'Église a grandi d'une manière extraordinaire dans ce pays, ces 30 dernières années. Extraordinaire. Mais imaginez-vous d'être à la place de l'ennemi, de l'adversaire, comme on l'appelle parfois. De se dire, ah, super, je me suis débarrassé de ce Sama. Il est parti au Liban, mais je l'ai poursuivi. Non, mais rien, ni personne, ne peut empêcher l'avancement du règne de Dieu, quelle que soit la région de ce monde. Et rien, ni personne, ne pourra empêcher l'avancement du règne de Dieu dans cette région de Clossonnet. Amen.
Amen.
Voilà, ça c'est la première chose. Simple, non? Donc, libre. Libre du découragement. Je sais que nous pourrions nous décourager, n'est-ce pas, en tant que responsables, parce que les choses n'avancent pas beaucoup dans l'Église, parfois. On a beaucoup de... Voilà. Eh bien, ne nous inquiétons pas de tout cela. Ne nous inquiétons pas des freins au sein de la communauté, à l'extérieur de la communauté. Ne nous inquiétons pas, parce qu'au travers de cela, eh bien, le Christ continue à faire avancer son règne ici, dans ce monde. Deuxième chose qui est importante ici. On voit un Paul qui est libre de ce que nous appelons les critiques négatives, les critiques destructrices, qui conduisent, bien sûr, à un sentiment d'amertume par la suite. Est-ce que vous rendez compte ce que Paul écrit, en fait, dans la suite de cette lettre, il dit, certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût de dispute, mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis... là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle, leurs intentions ne sont pas pures, ils s'imaginent ajouter de la détresse à ma condition de prisonnier. Mais qu'importe, prétexte ou vérité, le principal c'est le Christ, c'est que le Christ soit annoncé. Vous le savez, parce que j'ai cru que vous avez étudié cette lettre il y a quelques mois, donc je n'ai pas besoin, donc c'est pour cela que... Je ne prends pas tous les contextes, etc. Pas besoin de tout cela. Mais vous savez, n'est-ce pas, qu'il y a des tensions. Il y a des tensions à l'extérieur des murs de l'Église. Les chrétiens sont vraiment persécutés pour leur foi. Mais enfin, d'un autre côté, il y a de grandes tensions au sein de la communauté. Il suffit de s'intéresser à ce que Paul écrit dans le 2e chapitre, et puis surtout dans le 4e chapitre, lorsque deux femmes qui sont engagées dans le ministère aux côtés de Paul, eh bien... semble ne pas très bien s'entendre. Et les mots sont légers. Donc on voit, au sein des églises, les tensions peuvent être telles au sein de la communauté, au sein des églises. Et là, ben, Paul, il est un peu en train de vivre cela. Il est un peu malmené, il est un peu critiqué par un certain nombre de personnes, par un certain nombre de personnes qui sont dans le ministère, qui sont actives dans le ministère, certainement eh bien, des personnes qui sont un peu jaloux de sa personne, de ses dons, de ce qu'il a déjà apporté dans l'Église, là-bas dans cette région, mais ailleurs. Et puis, oui, donc il y a de la rivalité, comme ça peut arriver, ou comme ça arrive à... Peut-être, j'espère que non, mais comme ça peut arriver dans des équipes de responsables, hein, un peu de jalousie d'un côté, un peu de rivalité de l'autre, et puis ça rend parfois les choses un peu compliquées, mais bon, le Christ est là, heureusement. Mais c'est là. C'est là dans la vie de Paul, c'est là dans le ministère de Paul. On peut imaginer un certain nombre de personnes qui sont en train de se dire « Oh, mais ce Paul, s'il est en prison, c'est parce qu'il est un peu trop radical. S'il s'était un peu calmé, s'il s'était contenté d'un petit discours sympathique, eh bien, il ne serait pas en prison. » Mais s'il l'est, c'est parce que, oh, c'est un chrétien fondamentaliste, comme diraient certains. Vous voyez ? Mais Paul dit, qu'importe. Tout ce qu'ils peuvent dire de moi, bah, tant pis pour eux. Quelles que soient les motivations qui les poussent à partager l'évangile, qu'importe. Principal, c'est que l'évangile soit proclamé. Merci. Soit proclamé là, dans cette région. Et l'essentiel, c'est que le règne de Dieu puisse continuer de se propager, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les critiques que je dois subir. Il y a de nombreuses années, voilà, j'ai en fait servi dans les groupes bibliques universitaires en Belgique, et on avait un beau ministère. Oh, qu'est-ce que ça grandissait. Qu'est-ce que j'étais content. Voilà, peut-être parfois un peu trop fier, j'en sais rien, mais en tout cas, j'étais content. Et un jour, eh bien, j'apprends que des missionnaires américains arrivent dans la région et qu'eux aussi, ils ont à cœur de prêcher l'évangile parmi les étudiants. Et je me dis, super, on va pouvoir se voir, on va pouvoir collaborer et on va pouvoir voir encore le règne de Dieu s'étendre dans le monde étudiantin. Extraordinaire. J'étais encouragé. Et puis je vais les voir, bien sûr. Je leur expose la vision que nous avons. Ils me sourient. Ils sont contents, bien sûr, ils sont contents. Et puis je leur dis, mais voilà, on pourrait vraiment exercer un ministère en complémentarité, toucher encore des régions qui ne sont pas encore touchées. Enfin, ce serait extraordinaire, non ? Hein ? Et puis, ils m'ont dit, ouais, ce serait extraordinaire, ouais. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas dans la même mission. Ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas, on n'est peut-être pas d'accord sur un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas possible. Alors c'est vrai que je suis ressorti un peu déçu, en fait, de l'histoire. Je pense que je n'ai pas dormi durant des mois. Parce que, en fait, ces gens-là, ils ont commencé à construire le ministère à partir de groupes que nous avions formés, finalement. Puis c'est donc pour ça que je ne dormais plus beaucoup. Mais soit, après je me suis dit, ce n'est pas grave, on va les prier avec eux. Et donc je leur ai dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas au moins se voir pour prier ensemble, même si on ne peut pas collaborer. Et ils ont dit d'accord. Et c'est vrai qu'au fil des années, on est devenus des amis. Et cette parole justement ici, que nous avons lue ce matin, eh bien, m'est revenue, c'est quelques années plus tard, pour dire, mais oui, mais prétexte ou vérité, enfin, qu'importe finalement. L'essentiel, c'est que l'évangile soit proclamé. Et c'est ça qui est important. Il y a en fait quelques mois, je suis retourné en Belgique pour voir la famille, et puis je me suis dit, mais il faut déjà aller voir ce couple, à qui j'en voulais tellement durant des années, il faut déjà aller voir. Et donc, je leur ai téléphoné, je lui ai dit, tiens Blair, est-ce qu'on peut se voir? Parce que je passe par la Belgique et je passe par ta ville, donc est-ce qu'on ne peut pas se prendre un café? Il dit, ah ouais, si tu veux. Bon, il était un peu surpris par ma demande. Parce qu'on ne s'était plus parlé depuis 20 ans. Donc, bien sûr, il était un peu surpris. Mais et donc, on s'est vu. Puis alors, mon cœur a été beaucoup travaillé par le Seigneur. Et puis, en fait, l'Esprit-Saint m'a dit, David, il faut que tu le remercies pour les ministères, pour les années de ministère fidèles qu'ils ont accomplis en Belgique. 25 ans en Belgique. La Belgique est appelée le cimetière des missionnaires. Et eux, ils sont restés plus de 25 ans. Donc lorsque j'ai pris le café avec eux, je leur ai dit, merci pour votre ministère. Il a tellement porté du fruit. Et même grâce à votre ministère, les GBU qui avaient un peu chuté dans leur, dans leur ministère, ben, ils ont pu se relever grâce à votre fidélité, finalement. Donc voilà, qu'importe, prétexte ou vérité, l'évangile, c'est que l'évangile soit proclamé. dernièrement. Donc libre, libre du découragement. Libre de l'amertume, parce que oui, c'est vrai, nous pouvons avoir beaucoup d'amertume lorsque nous nous sentons ainsi malmenés, trompés par des collègues finalement. Et puis troisièmement, et dernièrement, libre de la mort. Bien sûr, lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre, il se rend compte qu'il est proche de la mort. Il ne sait pas combien de temps il lui reste, bien sûr, mais il sait que les temps sont comptés. Et là, on voit son cœur qui travaille, hein. On voit toute cette réflexion qu'il met sur papier, en fait, finalement. Et j'aime, en fait, la suite de ce passage. Bon, ben, je ne vais pas tout lire, mais j'aime comme il s'exprime. Il dit, bon, ben, je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ce que j'attends avec impatience, ce que j'espère, je n'aurai honte de rien. Avec une entière assurance, maintenant comme toujours, le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort, car pour moi la vie c'est le Christ et la mort est un gain. Pour moi la vie c'est le Christ. Je ne sais pas comment ces paroles travaillent votre cœur. Pourriez-vous dire, par vos paroles et par votre attitude de tous les jours, à quel point Christ est toute votre vie. Ça, c'est tout un défi. En tout cas, pour moi, c'est un défi de me dire, mais comment est-ce que je peux encore montrer aujourd'hui, par ma vie, par mon quotidien, donc pas aux autres, mais juste au Seigneur, qui, bon, bien sûr, connaît mon cœur, mais quand même, j'ai envie d'exprimer de manière visible, comment je peux encore le montrer, on l'a fait durant cette semaine qui vient, que Christ est toute ma vie, et que finalement, la mort est un gain, parce qu'une fois que le Christ me reprend, eh bien, waouh, je serai dans sa gloire, il n'y aura plus besoin d'essayer de dialoguer pour essayer de trouver une solution à un conflit, plus besoin de se dire, mais comment, qu'est-ce qu'on va planifier comme campagne d'évangélisation pour la suite, plus besoin, on sera, waouh, dans sa gloire, extraordinaire. Donc c'est vrai, autant qu'on part tout de suite, non mais bon, il nous a gardés ici, c'est pour une bonne raison. Mais voilà ce matin, peut-être que lorsque nous parlons de mort physique, nous pourrions nous parler aussi de mort à nous-mêmes. Serions-nous prêts à encore davantage mourir à nous-mêmes pour que le Christ prenne toute sa place, pour que nous ne pensions pas, comme certains de mes collègues à l'époque, lorsque j'étais jeune pasteur, qui disaient, David, moi j'espère que le Seigneur ne revient pas tout de suite parce que j'ai envie de me marier, d'avoir au moins 4 enfants et puis de profiter un peu de la vie. Non, mais est-ce qu'on est prêt à vivre dans cette perspective de l'avancement du règne de Dieu jusqu'à ce que le Christ vienne? Et donc de saisir, comme Paul le fait, comme Paul se dit, eh bien, peut-être il vaut mieux que je reste parmi vous encore pour que nous puissions participer à l'édification de cette Église, à l'édification du royaume de Dieu, là, dans cette région. Alors, si Christ est toute notre vie, eh bien, que nous soyons encore disposés à déjà disposé de cœur, mais en fait par la suite que cela se manifeste par des actes bien sûr, mais de faire en sorte que même si la mort nous guette, qu'elle soit physique ou autre, eh bien que nous soyons encore et toujours prêts à aller de l'avant. Parce que, ou pourquoi ? Parce que nous sommes libres. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Quels que soient les subterfuges de l'adversaire qui va essayer de nous mettre à plat, de nous mettre par terre, eh bien nous sommes invités ce matin à saisir cette liberté que Dieu nous a octroyée en Jésus-Christ pour que nous soyons ces hommes et ces femmes qui continuent de prendre part à l'avancement du règne de Dieu dans ce monde et dans cette région ici pour votre communauté. Alors peut-être ce matin, eh bien, prenons un temps pour nous dire, Seigneur, qu'est-ce qui me freine encore pour que je puisse pleinement saisir cette liberté que tu m'as octroyée? Oui, c'est vrai que j'en profite déjà un peu, mais il y a quand même un certain nombre de réalités qui m'empêchent à pleinement vivre cette liberté en toi. Bien qu'aujourd'hui, que dans les temps qui viennent, nous puissions prendre ce temps de recul afin d'être mieux en mesure d'aller plus loin dans ce qu'il nous confie. L'amertume fait partie de notre quotidien. à différents niveaux, au travail, en famille, à l'église, ailleurs. Peut-être que nous avons besoin là encore d'une intervention de l'Esprit Saint pour que par la suite cette vie communautaire puisse continuer à s'accélérer pour la gloire de Dieu, par sa grâce. Et qu'ainsi, eh bien, il n'y ait plus jamais de place ici dans cet endroit, qu'on doive encore mettre des chaises, je ne sais pas où, ouais, là-bas. Bon, là, il faudra peut-être construire autre chose bientôt, mais bon, voilà, pour que on se réjouisse encore. Alors ce matin, ben, j'ai à cœur d'encourager vraiment chacun d'entre vous, bien sûr, mais aussi ces responsables d'église qui ont besoin de vos prières, qui ont besoin de nos prières, parce qu'ils sont prêts à répondre à un appel qui n'est pas tout facile. Hein. On se dit, tiens, on nomme des gens, ouais, on nomme peut-être des gens, mais on nomme des gens qui ont reçu un appel qui vient du Christ, un appel qui n'est pas facile à relever. Mais ils sont libres, comme nous sommes tous libres, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et il nous donne toutes les ressources dont nous aurons besoin pour accomplir ce service, ce ministère. Alors saisissons cette liberté et que le Christ soit honoré dans nos vies personnelles, dans cette vie communautaire, et que d'autres hommes et femmes puissent être attirés par cet amour de Jésus-Christ qui est en nous, grâce à l'Esprit-Saint. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es rempli d'amour à notre égard et tu as tellement de patience pour nous. Et voilà, tu as décidé que nous fassions partie de ta famille. Tu as décidé de nous octroyer un certain nombre de dons, Seigneur, pour que nous puissions prendre part à l'avancement de ton règne. Et ce matin, eh bien, voilà, nous voulons venir à toi, peut-être encore te remettre, Seigneur, toutes ces choses qui ne sont pas de toi, qui t'attristent et qui nous empêchent de faire ces pas de plus avec toi. Oui, viens nous visiter, nous avons besoin de toi. Et Seigneur, eh bien oui, par ta grâce et par ta force, par l'Esprit Saint, je sais que nous pouvons tout pour ta gloire. Alors, manifeste-toi encore ce matin dans la suite de ce culte et dans cette semaine qui vient, et qu'il y ait de la joie à te suivre comme il y avait de la joie dans ce cœur de Paul qui a été jusqu'au bout de son appel, malgré ces circonstances compliquées. Ô Seigneur, donne-nous de la joie à te servir. Nous voulons te le prier en ton nom. Amen.